Chapitre 10. Le combat spirituel. 21e dimanche après la Pentecôte. Prenez donc l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Éphésiens chapitre 6 verset 13. Après la lecture de l'épître de ce jour, il est fréquent d'apercevoir des signes d'étonnement dans les regards des auditeurs, légèrement déconcertés par le symbolisme que saint Paul découvre dans l'équipement des légionnaires romains. Il serait regrettable que ce bruit de panoplie nous fît perdre la suite des idées que l'apôtre propose à nos réflexions. Essayons de la dégager posément. Ces conseils ont pour but de soutenir notre courage dans les jours mauvais, déjà évoqués dimanche dernier. Les chants de la messe orchestrent la leçon de l'épître. La toile de fond est toujours la parousie, le jour où nous entonnerons l'in exitu pour quitter le pays de servitude, verset alléluiatique. Les textes conviendraient parfaitement à une messe de carême. La joie dominicale s'estompe sous le ton éploré de supplication. Même l'antienne de la communion, habituellement si apaisante, joint à une première note d'espérance l'angoisse que nous causent les ennemis de notre salut. « Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu !» L'heure de la victoire n'est plus éloignée sans doute, mais nous sommes encore dans le fracas des combats. C'est en effet de combat spirituel qu'il est question dans l'épître. L'avertissement est nécessaire. Nous nous exposerions à une amère déception si notre confiance dans la miséricorde de Dieu devenait le prétexte à un relâchement dans l'effort. La perfection ne s'acquiert pas au rabais. La seule route où le disciple de l'Évangile soit assuré de suivre Jésus est celle du renoncement à la médiocrité. Ne nous abusons pas en faisant sonner bien haut notre amour de Dieu. L'amour se prouve, et il se prouve par un constant service, par l'oubli de soi, par le sacrifice. Le triomphe du Christ est certain, celui du chrétien aussi, mais à la condition qu'il ne prenne part avec Jésus à la lutte contre le mal. Nous ne serons glorifiés avec lui que si nous souffrons avec lui. Romains chapitre 8 verset 17. Saint Paul insiste d'abord sur l'âpreté du combat où nous sommes engagés à la suite de notre Maître. Pour redresser les déviations de notre nature pécheresse, nous n'avons pas seulement à nous défendre contre les intimidations ou les séductions des pécheurs. En ce cas, nous lutterions à armes égales. Nos ennemis ne sont pas de notre chair et de notre sang. Ce sont les principautés, les puissances, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits de malice occupés à perdre les hommes et dont l'influence se fait sentir jusque dans l'air que nous respirons. Blessé à mort par la croix du calvaire, Satan ne désespère pas de diminuer la victoire du Christ en lui arrachant quelques-uns de ses membres. Il s'oppose pied à pied à l'avance du règne de Dieu en accumulant toutes les embûches pour faire tomber dans le péché les élus marqués du signe de la croix. Deux chants de la messe mettent en relief la violence de Satan contre l'Église. Le cantique d'entrée est extrait de la prière de Mardochée. Cédez à l'invitation à le lire dans son entier, ainsi que la prière d'Esther qui y fait suite. Esther, chapitre 13 et 14. Assuérus a condamné le peuple de Dieu à périr sur la fausse déposition d'Aman, l'instrument du père du mensonge. Certes, les péchés des enfants d'Israël justifieraient ce châtiment, mais ceux-ci sont revenus à Dieu par la pénitence et dans la prière. Le Seigneur ne daignera-t-il pas exercer sur eux sa miséricorde? Il est le maître de l'univers. Il est capable d'abattre n'importe quel adversaire, si puissant soit-il. Dans l'antienne offertoriale, c'est Satan en personne que nous voyons à l'œuvre, s'acharnant sur le juste qui refuse de blasphémer. Il faut aussi compléter le récit à peine amorcé, car l'épreuve tourne à la confusion du tentateur. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job innocent et frappé est une figure du Christ qui, dans la déréliction et une misère plus grande encore, se voit accusé de tous les péchés du monde. Mais notre Sauveur accepte ce poids horrible et écrasant pour nous en délivrer, au dépit de Satan, obligé de lui rendre ses victimes. Tout baptisé est également l'objet des attaques du démon. Il est vrai que la grâce du baptême est une grâce de martyr. Elle oblige les chrétiens à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens, verset 15. Cependant, elle leur permet d'observer les volontés de Dieu au prix de tous les sacrifices. Satan aurait facilement raison des forces de l'homme. Il ne peut tenir à sa merci le chrétien qui a mis sa force dans le Seigneur. C'est le second enseignement de l'Épître. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa puissance souveraine. On ne donnerait pas à ces paroles toute leur valeur si on les entendait uniquement d'un appel à adresser à Dieu au moment de la tentation. Le secours divin est au-dedans de nous. Il consiste dans une participation réelle à la toute-puissance du Seigneur auquel nous sommes unis. Cette union, inaugurée au baptême, se fortifie et se resserre dans l'Eucharistie. La secrète de la messe nous rappelle la double efficacité du sacrifice eucharistique. Dieu répond à notre oblation en nous pardonnant nos fautes, puis par une faveur dans laquelle on ne sait qu'admirer le plus de sa bonté ou de sa puissance, il nous restitue le salut, puisque nous ne ferons qu'un avec notre Sauveur s'immolant sur la croix pour terrasser Satan et exterminer le péché. Toutefois, notre chef ne nous dispensera pas de lutter. Il vient au contraire nous conduire au combat. Nous ne bénéficierons pourtant de la puissance de Dieu qu'en employant des armes divines. Sans doute, nos vertus naturelles sont loin d'être inutiles. Nous devons nous en servir largement. Dans la lutte contre le péché, nous aurons à faire preuve de vigilance et de prudence, de ténacité et d'audace. Encore est-il que de telles armes risquent de nous tomber des mains ou d'être brisées par l'adversaire. C'est pourquoi saint Paul, qui se bat à côté de nous dans la mêlée, nous crie par deux fois « Revêtez, prenez les armes de Dieu !» L'apôtre recourt souvent à des images afin de mieux graver sa pensée dans la mémoire de ses disciples. Il emprunte surtout ses métaphores au jeu du stade et au métier des armes. La vie chrétienne n'est-elle pas un combat? Lorsqu'il sent que son départ est proche, il écrit à Timothée « J'ai jusqu'au bout combattu le bon combat ». Et il exhorte son disciple à se montrer dur à la fatigue comme un bon soldat du Christ Jésus, ne songeant à rien d'autre qu'à plaire au chef qu'il a enrôlé. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Les légions romaines ne se recrutaient que parmi des hommes libres, et une fois le serment prêté à l'impérateur, lui devait une obéissance absolue. Bien entendu, dans le combat spirituel, le chrétien ne se sert pas d'armes charnelles. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Mais l'équipement militaire fournit à saint Paul d'heureux rapprochements. Déjà, il avait conseillé aux Thessaloniciens de prendre la foi et la charité pour cuirasse et pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. La lettre aux Éphésiens comporte une description plus complète de l'armure du fantassin. Dans sa prison de Rome, Paul avait le loisir de détailler la tenue du fonctionnaire chargé de le surveiller. Depuis des chaussures nouées au mollet jusqu'au casque sous lequel les traits du visage se faisaient impassibles. Le ceinturon qui lui cambrait la taille, la cuirasse qui enfermait sa poitrine, au bras gauche le bouclier de bronze garni de peau fraîche et dans la main droite le glaive à forte lame et à double tranchant. Autant d'emblèmes qui affluent sous la plume du captif pour décrire la panoplie du chrétien. Le combat spirituel nous est présenté d'abord sous son aspect défensif. Provoqué par l'adversaire du règne de Dieu, nous devons résister et soutenir la lutte jusqu'au bout pour demeurer maître du terrain. De même que le légionnaire revêtant son équipement commence par serrer les plis de sa tunique dans le ceinturon, de même la précaution initiale du chrétien, s'il veut déjouer les ruses du tentateur, sera de se sangler dans la vérité. La première habileté du père du mensonge pour nous amener à pécher est de nous tromper sur la valeur morale de nos actes, soit qu'il nous voile la gravité du mal, soit qu'il nous persuade que nous avons le droit d'agir à notre guise. Sommes-nous néanmoins déterminés à obéir? Il essaye alors de nous faire douter de nos forces, ou au contraire de nous en inspirer une estime excessive afin de nous porter au découragement ou à la présomption. Dans ce but, il nous masque nos qualités et nos défauts, ou bien il les exagère. Trompés par ces illusions, nous commettrons sans doute les négligences ou les imprudences qui sont l'acheminement habituel vers le péché. Pour déjouer ces pièges, nous dit saint Paul, le chrétien doit vivre dans la vérité. Cherchons notre règle de conduite dans la vérité de l'Évangile. Toute règle est une gêne, une ceinture aussi, cependant elle soutient le marcheur qui doit fournir une longue étape. La loi évangélique, si elle réduit la liberté de nos mouvements, nous fait avancer à bonne allure sur la vraie route du bien. De plus, la vérité de l'Évangile nous permet de voir clair en nous. Vrai avec nous-mêmes, nous tenons compte aussi bien de nos faiblesses que de nos ressources et nous sommes capables de garder la parole de Jésus et de la mettre en pratique. Satan cherche ensuite à nous atteindre au cœur. En y développant, l'égoïsme qui tient à toutes les fibres de notre être et qui est la source de tout péché. Pour étouffer ce faux amour de nous-mêmes, Jésus nous ordonne d'avoir faim et soif de justice. Le mot justice signifie ici l'ensemble des vertus qui toutes se résument dans l'amour. Telle est aussi la cuirasse que saint Paul nous invite à endosser afin de nous protéger le cœur. Enveloppons-nous dans l'amour. La charité du Christ nous justifie aux yeux de Dieu et elle nous presse de nous dévouer à nos frères. Le tentateur nous poussera vainement à faire ce qui nous plaît. Si, fidèles à la loi de l'amour, nous pensons d'abord à plaire à Dieu et à servir nos semblables. C'est d'ailleurs le souci des autres que l'apôtre signale comme le troisième moyen de mener notre combat à bonne fin. L'apostolat nous aide puissamment à demeurer fidèles à Jésus-Christ. Comment annoncer l'Évangile, à moins de s'efforcer d'y soumettre entièrement notre vie? Le zèle a Dieu pour objet. Il est un amour jaloux qui ne nous laisse pas de repos, que nous n'ayons fait connaître autour de nous le Seigneur que nous aimons. Cet empressement à annoncer l'Évangile de paix, Paul en trouve un symbole dans les chaussures à la fois solides et légères du fantassin. Mais les traits enflammés du malin ne nous font pas grâce, il faut les éteindre tout de suite. Les Romains avaient éprouvé la perfidie des ennemis qui, au moment critique, lançaient sur eux des javelots enduits de poids et de résine auxquels ils avaient mis le feu. Et c'est pour s'en garantir que les soldats étaient munis d'un grand bouclier rectangulaire. La tactique du méchant est analogue. Aux disciples et aux apôtres du Christ, il réserve des projectiles inattendus qui sèment la panique. Brusquement, il déchaîne contre eux la pire des tentations, celle du doute. Es-tu certain qu'un Dieu pense à toi? N'es-tu pas en train de lâcher la proie pour l'ombre? S'il n'y a rien après cette vie, tu te seras privé en pure perte. Les autres que tu voudrais attirer à l'Évangile, vois comme ils s'en passent. Ils prennent la vie tranquillement comme elle vient, tandis que l'inquiétude te ronge. Alors le disciple s'arrête en plein élan. Va-t-il continuer des efforts coûteux pour atteindre une perfection illusoire ou inutile? Ne goûtera-t-il pas à son tour aux joies qui lui sont interdites? C'est pourquoi saint Paul nous adjure avec chaleur. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il dit surtout parce que le danger qui nous menace alors est le plus grave. La foi dont il parle ici est moins l'adhésion aux vérités religieuses dont il était question au début du combat qu'un attachement sans réserve à Jésus-Christ. Que rien, écrit-il ailleurs, ne nous sépare de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. N'allons pas au fort de la lutte douter de notre chef et hésiter à le suivre. Dans les sécheresses ou dans la nuit obscure, dans les heures de lassitude ou de dégoût, Attachons-nous à lui malgré tout, malgré nous. Il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Ne doutons jamais de son amour. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. N'ayant pu corrompre le cœur du chrétien, Satan s'est insinué dans son esprit. Il ne lâche pas de prise. S'il pouvait le frapper à la tête, comme le casque pour le légionnaire, l'espérance du salut servira de protection aux chrétiens contre les derniers coups du tentateur. Jésus nous a sauvés. Notre victoire est assurée, pourvu que nous ne reculions pas, ne sombrons pas dans le défaitisme, parce que la guerre traîne en longueur, parce que l'ennemi s'acharne contre nous. Ne prenons pas une mentalité de vaincu. Nous sommes sûrs de vaincre. Le combat se déroule tel que notre chef l'avait prévu. Les contradictions, les mépris, les tribulations, les persécutions, tout cela était inscrit au programme lorsque nous nous sommes enrôlés. La victoire aussi nous a été promise. Elle arrivera comme le reste. Portons la tête haute et gardons le sang-froid nécessaire à la décision. Car nous sommes maintenant parés contre les attaques de l'ennemi. Le moment est venu de passer à l'offensive. C'est l'heure du corps à corps où nous mettrons l'adversaire hors de combat. Un glaive nous suffit pour l'abattre. Glaive que rien ne brise. Glaive enchanté que l'Esprit-Saint lui-même a forgé et trempé, c'est-à-dire la parole de Dieu. Non seulement l'Évangile, mais toute parole sortie de la bouche de Dieu. Notre Sauveur nous a prouvé par son exemple que l'adversaire ne résiste pas à ce glaive. Au triple assaut que Satan lui a livré dans le désert, il a riposté chaque fois par ces simples mots. Il est écrit. Et l'ennemi a battu en retraite. Sa tactique, il l'a montré dans le jardin de l'Éden, est toujours de nous faire discuter les ordres de Dieu. Un ordre discuté sera bientôt transgressé. On ne discute pas, on exécute les commandements du Seigneur. La parole de Dieu contraint les armées de l'erreur et du péché à reculer. Il est écrit, voilà le secret de la victoire. Pour quel motif le péricope du misselle s'arrête-t-elle au milieu d'une phrase de l'apôtre? Peut-être pour nous laisser sur les mots la parole de Dieu, qui est l'événement central des avant-messes. Peut-être aussi parce que le reste de la phrase sert de transition à un autre sujet. Il nous est loisible, du moins, de retenir les premiers mots qui suivent. Faites en tout temps, par l'Esprit, des prières et des supplications de toutes sortes. Quoiqu'il ne soit plus fait allusion à l'équipement du soldat, il est certain que dans le combat spirituel, l'habitude de la prière est par excellence l'arme du chrétien pour la défensive autant que pour l'attaque. Elle écarte la tentation, elle nous communique le courage du sacrifice, elle décuple nos efforts, elle augmente notre amour. La conclusion de l'épître était contenue dans la collecte. Votre famille, Seigneur, gardez-la au nom de votre inlassable tendresse. Protégée par vous, elle échappera à toutes les puissances adverses et ses œuvres bonnes vous prouveront sa fidélité. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette fois, le mot définitif est prononcé, le nom de celui par qui nous triompherons. Le combat spirituel s'achève sur le cri prestigieux qui jaillit du cœur de saint Paul. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains, chapitre 8, verset 37.